Bonjour et bonne année, chers auditeurs de Radio B 90 FM. Nous voici pour la première chronique du passé de la nouvelle année. Je suis avec Rémi. Bonjour.
Bonjour Martine. Meilleurs vœux à vous-même et aux auditeurs.
Que diriez-vous de commencer l'année par une chronique impériale, avec Napoléon Ier pour compagnon? Tirons la première salve de cette année commémorative.
2021 est en effet une année Napoléon, avec le bicentenaire de la mort de l'empereur. Nous allons évoquer son passage au bourg, au fait de sa gloire, en avril 1805. Napoléon à Bourg, c'est un événement. Tout le monde connaît Napoléon Bonaparte, mais évoquons le personnage avant son passage à Bourg.
Il est né en Corse le 15 août 1769. Il fréquente l'école militaire de Brienne et choisit l'artillerie. C'est un simple lieutenant de 20 ans lorsqu'éclate la Révolution dont il prend le parti. Il se distingue au siège de Toulon en 1793, combat les royalistes à Paris en 1795 et prouve ses qualités exceptionnelles lors de la campagne d'Italie. Il part pour l'Égypte en 1798, revient en France en 1799 et réussit son coup d'État du 18 Brumaire, soit le 9 novembre 1799.
Il devient premier consul, pacifie le pays, impose une nouvelle constitution à la France et la paix à ses adversaires. Il signe le concordat avec le pape en 1801 et se fait nommer consul à vie en 1802.
Bonaparte se sacre empereur le 2 décembre 1804 et devient Napoléon Ier. Bourg n'est pas sur le chemin de sa gloire. À qui devons-nous ces visites?
Nous la devons à Thomas Riboud, l'homme politique influent de la ville. Comme beaucoup de notables de son époque, il a servi successivement le roi, la Révolution et Bonaparte. Il a échappé de peu à la terreur et à la guillotine.
Et il reste actif au service de notre département. Il rencontre l'empereur à Lyon en 1802 et se permet de l'inviter à Bourg.
Et Napoléon Bonaparte promet de venir.
Ce serait un événement, car peu de souverains sont venus. Thomas Riboud reste vigilant et lorsqu'il apprend que Napoléon va se rendre en Italie, eh bien, il suggère un détour par Bourg. L'empereur tient ses promesses. Il vient le 26 février 1805, la préfecture et la ville sont informées que Napoléon viendra à Bourg.
En compagnie de l'impératrice Joséphine.
Eh oui. En avril, il sera sur cette route d'Italie où il va se faire couronner roi d'Italie. Ce voyage est l'occasion de visiter quelques villes de l'Empire et de rencontrer ses administrés à Troyes, Semur, Le Creusot, Chalon-sur-Saône et Mâcon. C'est de Mâcon que l'empereur modifiera son itinéraire pour honorer sa promesse à Bourg sur le chemin de Lyon.
Sa venue est confirmée le 10 mars. Les préparatifs commencent.
Oh, dès le lendemain, un détachement de cavalerie arrive dans la ville. La musique commence à répéter. Le 17 mars, le préfet rappelle le décret qui fixe les honneurs qui doivent être rendus dans chaque localité traversée. Je cite « Les maires des communes attendront leur majesté sur la limite de leur municipalité respective. Ils seront accompagnés de leurs adjoints, du conseil municipal et d'un détachement de la garde nationale. » Le préfet invite aussi ces communes à tout faire pour manifester leur amour et leur dévouement à leur majesté.
Le 9 avril, leur majesté quitte Mâcon. Un arc de triomphe a été élevé sur le pont de Saint-Laurent pour marquer l'entrée dans le département de l'Ain. L'empereur s'y arrête et le préfet Bossy déclame un compliment, d'abord à l'empereur.
Je reprends deux extraits de son discours. « Votre majesté impériale, aussi avare du sang des Français que jalouse d'en accroître la gloire, pacifia la France par la seule force de son génie et recula sa frontière jusqu'à des provinces lointaines. Le préfet fait allusion à l'Italie, d'où il est originaire, et termine par ces mots. Les habitants de l'Ain célèbrent par la simplicité de leurs mœurs, la constance de leurs affections, la loyauté et la droiture de leur caractère, vous reçoivent avec ce respect religieux que seuls les héros inspirent et qui n'est dû qu'aux grands hommes dont les travaux ont bien mérité de l'humanité entière.
Il se tourne ensuite vers Sa Majesté l'Impératrice.
Je cite encore des extraits. « Vous avez, Madame, votre part dans les œuvres pacifiques de son immense administration. Aussi longtemps que l'héroïsme et les grâces auxquelles auront des hôtels en France, les bénédictions de ses habitants ne sépareront jamais les noms de Napoléon et Joséphine. La postérité, la plus reculée, se plaira encore à les répéter avec l'accent de l'enthousiasme et de la reconnaissance. »
Ah ça, c'est bien envoyé. Sur le parcours, la population se presse et la commune de Curtafond se distingue par un luxe de devises et de poésie. Le cortège approche de Bourg.
Un détachement de la garde d'honneur est parti à l'avant et les magistrats attendent leurs invités à la limite de la ville. Un arc de triomphe dédié aux vainqueurs de Marengo et aux grâces de Joséphine a été dressé. Leur Majesté s'y arrête. Il est 4 heures du soir. Le maire, Chaussat Saint-Sulpice, remet à l'empereur les clés de la cité et précise que la ville est heureuse de l'accueillir à la suite et dans la lignée de ses prédécesseurs, François Ier et Henri IV. Il complimente ensuite l'impératrice.
Le cortège reprend sa route au son des cloches et du tir de l'artillerie sous les acclamations générales. À travers une foule immense, il arrive à l'hôtel de préfecture, transformé en palais impérial, meublé et décoré par le soin des habitants les plus riches.
Dès son arrivée, Napoléon demande à voir le plan de la ville, l'examine rapidement et monte aussitôt à cheval avec une escorte. Ensemble, ils parcourent la campagne, butent sur la Ressouze, vont visiter l'église de Brou et reviennent en ville. Sur le retour, Napoléon aurait rencontré et interpellé 2 militaires en retraite. « Que faites-vous là ? Êtes-vous marié ? Mariez-vous ! Faites des enfants pour la patrie !»
Napoléon revient au pas de charge au collège.
Il interroge le directeur et plusieurs élèves. L'un d'eux déclame un poème. Satisfait, l'empereur distribue 60 pièces de 20 francs et gratifie le directeur d'une pension annuelle de 600 francs.
Le dîner survient et l'empereur reçoit ensuite les conseillers de préfecture, les membres du conseil général et des personnalités.
Les conversations s'engagent respectueusement. L'empereur va d'un invité à un autre. Là, se produit un incident avec le conseiller général de Villars-les-Dombes, M. Volpré. Évoquant l'insalubrité de la Dombe, celui-ci se permet de dire à l'empereur que « la conscription enlève plus de bras à l'agriculture que la fièvre ». On dit même qu'il aurait salué l'empereur d'un « monsieur ».
Ce monsieur lui répond sèchement.
« Préfériez-vous, monsieur, que les Autrichiens et les Russes vinssent faire vos moissons ?» L'empereur tourne les talons. Un peu plus tard, il souhaite revoir son contradicteur. Mais on a conseillé à monsieur Volpré de s'éclipser discrètement.
Le maire de Bourg a plus de chance.
Il obtient 12 000 francs pour terminer la pyramide Joubert, élevée devant l'hôtel de ville, et 12 000 francs pour créer une filature de coton. Après cela, l'empereur se retire dans son appartement.
Et l'impératrice dans le sien.
Là, elle reçoit quelques dames de la bourgeoisie. Le soir, la ville est illuminée, les cloches sonnent et des tirs d'artillerie tonnent.
Le lendemain, l'empereur est debout dès 5 heures du matin et il reçoit les administrations en audience.
De son côté, l'impératrice reçoit 2 dames qui sollicitent sa générosité pour les pauvres. L'empereur survient à propos et leur remet 5 000 francs. Il offre aussi 3000 francs pour l'hôpital et autant au curé pour ses aumônes secrètes. À 8 heures du matin, leurs majestés sont devant l'église de Broux pour leur départ vers Lyon. Les magistrats les saluent à la sortie de la ville. Un détachement de cavaliers les accompagne durant un temps jusqu'au hameau de la chapelle.
Ils passent par Pondat ?
Et par Priet et Meximieux. À l'époque, c'est la route la plus utilisée pour aller à Lyon. L'empereur y arrive à 3 heures de l'après-midi.
L'empereur est-il satisfait de son passage à Bourg ?
Oh, tout à fait. Il a été heureux de constater que la ville était bien administrée. 5 jours plus tard, il fait parvenir au maire de Bourg, pour un usage personnel, une tabatière enrichie de diamants.
Leurs majestés impériales sont parties. Nous pouvons faire de petits retours en arrière. Nous n'avons pas parlé de Thomas Riboud, qui a obtenu cette visite, ni de Jérôme Lalande, l'astronome de Bourg.
Hélas, ils n'ont pas de fonctions électives dans la ville. Thomas Riboud a été reçu le lendemain matin dans l'audience générale au titre de président de la société d'émulation. Il aurait remis des publications à l'empereur.
La foule est-elle venue ?
Ah oui ! Oui, le peuple n'a pas de grief contre l'empereur. Il a mis fin aux troubles, rétabli une monnaie stable et la paix religieuse. Il y a la conscription, mais le départ de quelques hommes permet aux restants de trouver plus facilement du travail.
Il y a eu une belle animation en ville.
Comme nous l'avons dit pour Ampère, Bourg compte environ 7000 habitants. La ville est resserrée autour de son centre moyenâgeux. L'avenue de l'Alsace-Lorraine n'existe pas encore. Les audiences se déroulent près des rues actuelles, Bichat et du lycée. Les cavalcades dans ces petites rues ont dû créer une animation aussi surprenante que bruyante et inaccoutumée.
Et la forêt de Seillon ?
Depuis longtemps, ses plus beaux chênes sont acheminés à Toulon pour construire des bateaux de guerre. Napoléon accélère le mouvement car il prépare l'invasion de l'Angleterre. Mais 6 mois plus tard, en octobre 1805, son ambition se noiera à Trafalgar, où nos chênes de Seillon, avec d'autres, sombreront dans l'Atlantique. En 1808, un vaste plan de reboisement sera nécessaire.
Et la filature de coton ?
Ah, elle prend forme peu à peu. Un équipement mécanique est fourni. Et la filature fonctionne à partir de mai 1807 dans les anciens bâtiments du couvent Sainte-Marie, rue Bourmailleur, à Bourg. Nous ne savons pas si elle prospère réellement, mais elle reste active durant des années. Et c'est là, Rémi, que vous avez trouvé ce que nous appelons une perle d'histoire.
10 ans après, en 1818, le directeur de la filature demande l'installation d'une pompe à feu. Martine, vous allez nous raconter cet épisode.
Alors en France, c'est le début de la révolution industrielle commencée en 1815. Cette pompe à feu est tout simplement une machine à vapeur. Le directeur en veut une pour améliorer sa filature. Et plus surprenant encore, des conseillers municipaux s'inquiètent en cette année 1818, de la suppression des emplois causés par cette machine à vapeur. C'est étonnant. La machine est installée et la filature va tourner jusqu'en juillet 1825.
Revenons à Napoléon. Reviendra-t-il à Bourg ?
Ah non, pas du tout. Par contre, ses adversaires, les Autrichiens, vont occuper 2 fois Bourg et la Bresse, en 1814 et 1815.
Nous n'allons pas terminer sur ces mauvais souvenirs.
Pour la venue de Napoléon à Bourg, nous avons dit que le préfet était M. Bossy, un homme charmant, qui n'a laissé que de bons souvenirs en Bresse. Il mérite une chronique et nous l'évoquerons au printemps. Avant, eh bien, nous retrouverons les auditeurs de Radio B dans un mois, sur 90 FM ou sur Internet avec radiob.fr. Au revoir! Avec un extrait de l'épopée musicale de Serge Lama et Yves Gilbert, de Bonaparte à Napoléon.